Bienvenue à notre analyse des sources d'aujourd'hui. On plonge dans un sujet qui, pour plusieurs entreprises, est à la fois le moment le plus attendu et le plus redouté de l'année. On parle bien sûr de la gestion de la logistique pendant la fameuse saison de pointe. Les documents qu'on est ici, c'est un peu comme un guide de survie pour les PME.
Exactement. Un guide pour non seulement traverser la tempête, mais idéalement en sortir plus fort.
Alors, commençons par la base. La saison de pointe, c'est quoi exactement? On pense tout de suite à Noël, mais les sources montrent que c'est bien plus vaste. Pourquoi c'est un défi aussi colossal?
C'est une excellente question parce que l'image de la tempête parfaite, elle est vraiment bonne. La période de pointe, qui s'étend, on va dire, du début août à la mi-décembre, ce n'est pas juste un seul gros événement.
Non, c'est une accumulation.
C'est ça. C'est une convergence en la rentrée scolaire qui commence, puis la pression monte avec le vendredi fou, le cyberlundi, et ça culmine, bien sûr, avec la frénésie des fêtes.
Ouais.
Chaque vague est plus grosse que la précédente.
Et les conséquences de cette pression-là?
Bien, elles sont énormes pour toute la chaîne d'approvisionnement. On parle pas de petits pépins, là. On parle de retards de livraison qui deviennent la norme.
Ah ouais?
Oui, et une pénurie de capacité. Des fois, il y a juste littéralement plus de place dans les camions. Et le plus insidieux, c'est les fameux suppléments de coûts qui apparaissent de nulle part et qui viennent gruger les marges. Fait que pour une entreprise qui n'est pas préparée, l'impact sur les profits est direct, mais l'impact sur la réputation, ça peut être dévastateur.
Bon, déballons ça. Face à ce mur de défis, par où on commence? Le guide qu'on analyse propose des stratégies générales. La première, qui semble évidente, c'est de planifier à l'avance.
Oui, mais c'est là qu'elle piège.
C'est ça. La plupart des entreprises pensent qu'elles planifient déjà. C'est quoi l'angle mort que les PME voient pas venir?
L'angle mort, c'est pas tant le volume. La plupart des entreprises sont bonnes pour regarder leurs chiffres de l'an dernier puis dire « Ah, OK, on prévoit 15 % de plus ». L'erreur, c'est de ne pas planifier la complexité.
La complexité, OK.
Oui, on prévoit les ventes, mais on prévoit pas l'augmentation 300 % des courriels au service à la clientèle qui demande « Où est ma commande ?» On prévoit pas le casse-tête des retours en janvier. Le guide insiste là-dessus. Une bonne prévision, c'est pas juste un chiffre, tu sais. C'est une carte de tous les points de pression.
C'est une nuance vraiment, vraiment importante. Le guide mentionne ensuite deux autres points qui semblent aller ensemble. Utiliser la technologie et diversifier les transporteurs. J'imagine que l'idée, c'est pas de travailler plus, mais plus intelligemment.
C'est une excellente façon de le voir. Travailler intelligemment ici, ça veut dire remplacer l'effort brut par de l'anticipation. La technologie puis la diversification, c'est pas des solutions miracles. C'est des polices d'assurance contre le chaos.
Des polices d'assurance, j'aime ça.
Ben oui. Une bonne plateforme technologique, ça automatise les étiquettes, ça compare les tarifs, ça réduit les erreurs humaines quand tout le monde est fatigué. Et en même temps, diversifier les transporteurs, c'est ton plan B, C et D.
T'as un exemple de ça?
J'ai vu une entreprise perdre des dizaines de milliers de dollars pendant un vendredi fou parce que le système de leur seul transporteur est tombé en panne pendant 6 heures.
6 heures, un vendredi fou?
6 heures cruciales. Les produits étaient prêts, mais ils pouvaient juste pas partir. C'est une leçon qui coûte cher sur l'importance de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
C'est un exemple qui frappe, c'est sûr. Le dernier point général, ce sont les frais supplémentaires. Les sources parlent des suppléments de carburant, de manutention. On dirait une taxe cachée.
C'est exactement ça, une taxe sur l'impréparation. Et ce qui est fascinant, c'est que ces frais-verts, ils sont pas arbitraires. Ils reflètent la tension sur le réseau.
Ah, OK.
Le transporteur doit engager du personnel temporaire, louer des camions, y transfère une partie de ce coût. Fait que le conseil du guide, c'est pas juste de les budgétiser, c'est de comprendre leur logique pour pouvoir ajuster ta propre stratégie.
Comme... est-ce qu'on absorbe le coût ou on le passe au client?
Exactement. Est-ce qu'on l'absorbe? Est-ce qu'on l'intègre au prix? Est-ce qu'on l'affiche clairement? Chaque option a un impact différent.
D'accord. La vision d'ensemble est très claire. J'aime cette idée de reprendre le contrôle sur ce qu'on peut contrôler, mais j'imagine que ce contrôle-là s'évapore un peu dès que le coulis quitte l'entrepôt.
Un peu, oui.
Le guide segmente ses conseils et pour les colis, il y a une astuce qui m'a surpris. Utiliser les centres de dépôt locaux. On s'attend à ce que le transporteur vienne tout chercher, mais c'est pas toujours la meilleure idée, on dirait.
En effet, c'est une stratégie de reprise de contrôle très concrète. Imagine, on est le 20 décembre. T'as une pile de commandes urgentes, mais ton transporteur, qui est complètement débordé, t'annonce que sa collecte est repoussée à demain.
Le cauchemar.
Le cauchemar total. En allant déposer toi-même tes colis les plus importants au centre de tri du transporteur, tu court-circuites cette incertitude. Tu t'assures que tes paquets entrent dans le réseau le jour même. Ça peut littéralement sauver une promesse de livraison.
Ça a beaucoup, beaucoup de sens. Le guide parle aussi de l'emballage. Honnêtement, je pensais que c'était surtout pour économiser sur le poids volumétrique. Qu'est-ce qu'on manque si on pense juste à ça?
On manque la dimension de la protection de la marque. Oui, un emballage optimisé, ça réduit les coûts, c'est vrai. Mais pendant la saison de pointe, les centres de tri fonctionnent à 150 %.
Tout va plus vite.
Tout va plus vite. Les colis sont manipulés plus brusquement. Le risque de dommages augmente de façon exponentielle. Un produit qui arrive brisé, c'est pas juste un coût de remplacement. C'est un client déçu pendant les fêtes, un commentaire négatif potentiel.
C'est une charge de travail de plus pour le service à la clientèle qui est déjà dans le jus.
Exactement. Un bon emballage, c'est une armure pour ton produit, mais c'est aussi une armure pour ta réputation.
Parlant de risques qui augmentent, j'imagine que ça se multiplie par 10 quand un colis traverse une frontière. Le guide insiste vraiment beaucoup sur la paperasse. C'est là que tout peut déraper.
C'est le point de friction numéro 1, sans aucun doute. Une simple erreur dans la description, une valeur incorrecte sur la facture et ton envoi est bloqué aux douanes.
Et j'imagine que pendant la saison de pointe, les douanes aussi sont surchargées.
Bien sûr. Fait qu'un retard de quelques heures en temps normal devient un retard de plusieurs jours. Mmh. Le colis se retrouve au bas d'une pile immense.
C'est fou.
D'ailleurs, le guide donne un conseil vraiment judicieux à ce sujet. Faire des envois tests bien avant la frénésie, en septembre, par exemple. Envoyer un petit paquet pour valider que tout le processus est fluide avec un partenaire. C'est un petit investissement qui peut éviter des catastrophes.
C'est une excellente idée. D'accord, ça, c'est pour les colis. Mais pour les entreprises qui expédient des choses plus grosses sur des palettes, le LTL ou transport de l'eau brisée, le guide parle de consolider les envois.
C'est une stratégie d'efficacité pure, ça. Au lieu d'expédier 3 palettes séparées à 3 clients dans la même ville, on les regroupe dans un seul envoi.
Ça sauve des coûts, j'imagine.
Ça réduit les coûts administratifs, de manutention, et c'est beaucoup plus efficace pour le transporteur qui fait un seul arrêt au lieu de 3. C'est gagnant-gagnant.
Et il y a un autre point plus technique, la classe de frais.
Oui, il faut voir ça comme le profil de risque de ta palette. Une palette de briques, c'est dense, solide, facile à empiler. Classe basse, coût bas.
Et à l'inverse?
Ben, une palette de sacs de croustilles, c'est un cauchemar logistique. C'est fragile, ça prend un volume énorme. Pour un poids minime, on ne peut rien mettre dessus. Classe de frais élevée, coût beaucoup plus élevé. Comprendre ça, ça évite des factures surprises où le transport a coûté les doubles du prix prévu.
Toute cette logistique complexe, que ce soit les colis, les palettes, tout ça converge vers un point central aujourd'hui, le commerce en ligne. C'est là que la pression est maximale. J'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre.
C'est absolument le nerf de la guerre. Et le premier conseil du guide pour le commerce en ligne, c'est la préparation des stocks. Et encore une fois, ça va plus loin que juste avoir assez de produits.
C'est d'avoir les bons produits.
Exactement. Les bons produits au bon endroit, au bon moment. Une rupture de stock sur ton produit vedette le week-end du Vendredi fou, c'est pas juste une vente manquée. C'est un client déçu qui, en un clic, va chez ton compétiteur et peut-être qu'il ne reviendra jamais.
C'est là qu'on touche à un point qui m'a l'air un peu paradoxal. Le guide insiste beaucoup sur la transparence avec les clients sur les délais. C'est contre-intuitif, non? On a peur de faire fuir le monde si on annonce que ça va être plus long.
C'est un point fondamental sur la psychologie de l'acheteur moderne. Ce qui frustre le plus un client, ce n'est pas l'attente en soi, c'est l'incertitude.
Le fait de ne pas savoir où est son paquet.
Précisément. Un client à qui on dit « ça arrivera dans 5 à 7 jours » et qui peut suivre son colis est beaucoup plus calme qu'un client à qui on a promis 3 jours et qui, au 4e jour, n'a aucune nouvelle. Être proactif, c'est gérer les attentes. Ça ne décourage pas la vente, au contraire, ça bâtit la confiance.
Ça transforme un problème potentiel en une preuve de fiabilité.
C'est exactement ça.
Le guide mentionne aussi d'offrir plusieurs options de livraison et de simplifier la politique de retour. C'est pour redonner le contrôle au client, j'imagine.
Absolument. Offrir le choix entre une livraison standard, plus économique, et une livraison express, plus chère, ça redonne un sentiment de contrôle. C'est le client qui décide selon son urgence, son budget.
Et pour les retours?
Pour les retours, c'est souvent ce qui fait pencher la balance. Si un client hésite entre deux sites, il va choisir celui où le retour est simple. Une politique claire, avec une étiquette de retour prépayée dans la boîte, ça élimine la dernière barrière à l'achat. Ce n'est plus juste de la logistique, tu sais, c'est un argument vente.
Si on fait le bilan de tout ça, le message principal,
C'est pas juste « soyez prêt », c'est de reprendre le contrôle partout où c'est possible. Que ce soit par l'analyse des données, la technologie, les partenaires, la communication ou même juste le carton d'emballage.
Bien, pour rebondir là-dessus, je dirais que le fil conducteur de tous ces conseils, c'est la réduction de l'incertitude. Dans un environnement qui est par nature chaotique, chaque action vise à éliminer une variable inconnue.
Pour l'entreprise et pour le client.
Surtout pour le client. On réduit l'incertitude pour le client en gérant ses attentes, en lui donnant du contrôle et en lui offrant une expérience fiable même au cœur de la tempête.
Cette analyse nous donne une feuille de route très, très claire pour optimiser les processus et protéger l'expérience client. Mais ça soulève une question plus large, une question à méditer peut-être. À une époque où l'expérience de livraison fait tellement partie de la marque, mais que cette étape-là est presque toujours sous-traitée, comment une PME peut s'assurer que sa promesse, son identité, ne se brise pas dans ce fameux dernier kilomètre, surtout pendant cette période de pression maximale?